Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventurières, bienvenue à la table des fabulistes pour une mini-campagne Les Oubliés. Vous avez repris votre marche. Et après cette nuit claire, le froid s'est installé. Les couvertures sont givrées et la buée sort des bouches et des narines de chaque membre du petit peuple. Le froid est saisissant et aux premières lueurs du jour, la neige commence à tomber. Que faites-vous?
Moi, je vais voir Yoevan et je fais alors la neige. C'est bien la neige, du coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des trucs. C'est bien.
Je n'aime pas la neige. Je.
Eh ben non plus.
J'ai froid.
Allez, couvrez-vous. Allez, prenez, mettez ça. Voilà.
Bon. Que faisons-nous?
Bah, il faut avancer là, on y va.
Il faut qu'on avance.
On continue d'avancer, de toute façon, on n'a pas le choix.
Moi, j'essaye de remonter de haut en bas la colonie avec une sorte de prisme un peu, je sais pas, chimérique, magique, pour essayer de repérer quelqu'un qui aurait des. Qui serait plus lié au cauchemar que les autres.
Alors, est-ce que tu ferais un jet de sens?
J'ai chimérisme ou
okay.
sens.
Ok, fais un jet de chimérisme, ok.
C'est, j'ai plus haut en chimérisme. Oui, c'est un 12.
Alors vas-y, redécris ce que tu fais.
Donc un 12, bah, je peux le relancer du coup aussi.
Oui.
Donc, ça fait 17. 17 19 en tout. Innocemment, je joue de la flûte du haut en bas. Et comme si mes notes allaient directement dans les oreilles de chaque personne. Et essayer de détecter des mauvaises intentions ou une noirceur quelconque. Alors, vraiment comme si chaque note était visible par une sorte de trait, comme des tentacules.
Et en infusant ta musique de magie, tu ressens que le cauchemar qui t'entoure a une emprise particulière qui émane de presque chaque membre du petit peuple. Mais une noirceur singulière émane particulièrement d'un membre qui a une allure de kobold, qui marche en retrait des autres, très proche de la carriole de nourriture. Il a un capuchon et il est emmitouflé dans une espèce de grand manteau qui lui cache presque tout le corps et le visage et émane de lui une noirceur particulière.
Bah, innocemment, je me tourne vers quelqu'un pas très loin de lui, un kobold aussi si j'en ai un. Il fait, tu le connais lui ? Genre vraiment, je te regarde discrètement, tu le connais ?
Et il se retourne. Et il se retourne et il fait...
Qui ça ? Lui ?
Bon, je sais pas. Oui, peut-être. Bah oui, bah on se connaît tous.
Oui, oui, oh, oui, je suis bête. Ça et va toi ?
Ouais. Okay, mais pourquoi tu demandes lui ? Et il lui fait coucou. J'ai vraiment fait un très mauvais jet.
Je vraiment je regarde à gauche quoi. Il fait coucou à droite, je regarde à gauche quoi. Vraiment.
Très bien. Mais tu vois quand même cet individu mystérieux qui marche et n'a pas l'air de réagir.
Super.
Ouais, de toute façon tout le monde est un peu triste, un peu chafouin. Donc peut-être qu'il a pas envie de faire coucou.
Je vais avertir mes compagnons de que ce kobold non loin de la nourriture fait des vibrations un peu négatives.
Moi je suis parti dormir au fait. Hein. Voilà. Je fais dodo.
Tu es dans la carriole. Oui, c'est surtout que du coup tu nous as dit ce que t'avais dit Yaovan ou pas enfin, en
fait, bah, on était autour, il nous avait réveillé pour ça.
Non, il l'a dit qu'à Krogar.
Qu'à Krogar, c'est ça en fait.
Cloane, tu veux dire ?
Cloane, pardon, oui.
Ah bah si, je vous l'ai dit avant, oui, parce que sinon Oya ne serait pas allé oui, regarder, donc je vous l'ai dit avant. Et ensuite, je suis allé voir Yoeven pour lui faire une blague, et après, je suis parti dormir.
Eh ben...
On a un plan.
Non, je vais voir, je prends la décision d'y aller tout seul, d'aller voir ce kobold qui me paraît perdu.
Comme ça, tu vas le voir comme ça.
Ouais, je sais pas.
T'es ma boule.
Et tu vois ce kobold qui a... une sorte de morceau de nourriture, de morceaux de fruits dans la main qui le mange quand tu t'approches de lui et tu ne vois pas son visage.
Tout va bien ?
Hein ? Ouais.
Et fais-moi un jet de sang, s'il te plaît.
C'est raté.
Ok. Tu sens une odeur autour du chariot, une odeur de putréfaction, quoi, de décomposition qui émane du chariot. Et tu vois que le fruit qu'il a dans la main a l'air d'être vraiment pourri de façon très avancée.
Ah, c'est quoi que vous mangez là, c'est...
Que ça.
Je viens chercher Nirin parce que je sens pas du tout cette personne là et je le tire par le bras.
Bah je suis Nini sans trop broncher, mais justement en me retournant quand même vers cet homme et vers la chariot, c'est le chariot qui sent le pourri.
Oui.
Et bah du coup j'en parle tout de suite à Nini. J'ai mis le chariot, je sens comme une odeur de pourri, de putréfaction. Je me demande s'il n'y a pas, je sais pas, des corps.
Mais oui, j'ai vu son fruit pourrir dans sa main. Instantanément. C'est peut-être très mauvais.
Moi, je suis pas loin, je vais en attaque. Avec un vrai regard pétillant. Bah, c'est lui le méchant, non ?
On peut pas l'attaquer comme ça.
J'avoue avoir pensé déjà, si on a une occasion qui se présente, peut-être ne pas se justifier et juste faire ce qu'il faut.
Il faut qu'on le surveille, il faut qu'on regarde ce qu'il
y
fait.
Il mange des trucs, il pourrit tout le truc.
Il n'a pas à surveiller, on ne connaît pas, on n'a pas de remède, on n'a pas d'antidote. La mission, c'est peu mollo.
Oui, mais s'il mange les nourritures... Plus mollo, il a plus de nourriture aussi à la fin. Et nous non plus.
Oui, justement. C'est pour ça que je suis d'accord pour qu'on l'élimine.
Mais si on l'élimine et que c'est juste quelqu'un qui est emprisonné de cauchemar, est-ce que le cauchemar va se libérer et aller dans quelqu'un d'autre et auquel cas on tue tout le monde à la fin, c'est ça ? Il reste que nous.
J'ai des mauvais plans, d'accord.
C'est justement dans ces moments-là où il faut qu'on se rappelle, et rappelez-vous aussi, quand justement on a reparlé de Pomelo, et on s'est remis aussi tous dans la tête que la mission c'était lui et pas les autres. C'est triste à dire, c'est difficile, mais on a des choix à faire et là il...
Mais enfin, on peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'il mange.
Et si c'est l'un d'entre nous qui...
Ou bien, alors, dans ce cas, je suis... Peut-être, on peut essayer de juste le mettre en retrait. Mais dans ce cas-là, il faut le surveiller constamment.
On ne sait même pas de quoi il est capable, on ne sait pas où sont les lifices.
Dans un premier temps, il faut peut-être le séparer de la chariote qui est remplie de nourriture. Et le surveiller constamment. Rien est bruité.
Donc que nous donc la première
oui, on lui dira quand
de toute façon il faut l'écarter de la chariote dans un premier temps pour voir ce qu'il y a dedans en fait.
Aussi,
s'il y a des corps ou si vraiment c'est
lui
la nourriture
qui sent
voilà.
Comme ça.
Très bien.
Faisons ça. Qui fait diversion?
Qui va?
Moi je vais lui raconter une histoire.
Ok.
Et du coup je me dirige vers le kobold. Je fais monsieur le kobold, vous appelez comment?
Comme tu veux.
Est-ce que je pourrais vous raconter une petite histoire? Venez avec moi par là.
Non. Faim.
Faim? Ah bah justement, il y a à manger devant. Venez, venez, venez.
À manger ici.
Ah mais plus devant.
Ok,
il t'écoute pas.
Du tout. Je peux même pas essayer de le...
Mais en tout cas, il reste à marcher à côté. Et il prend un autre fruit et fais-moi un jet de sens, s'il te plaît.
Non, c'est pas bon.
Et tu vois pareil ce fruit flétri dans ses mains suintantes.
J'utilise mon bâton de marche et vraiment je fais oh mais touchez pas ça, genre je l'enlève de ses mains, genre je le fais tomber son fruit de ses mains, je fais ah oh, touchez pas ça, c'est pourri, attention. Innocemment quoi.
Et tu le vois marquer un temps d'arrêt, une petite seconde, et reprendre la marche et reprendre un autre fruit. Donc c'est la même chose.
Je repars en arrière, je regarde mes camarades, on a un problème.
Il faut trouver une solution. Soit on arrive à le convaincre, on peut réessayer une dernière fois, soit on le contraint. Et dans ce cas-là, il faut se préparer au pire.
La meilleure défense, c'est l'attaque.
On peut pas juste l'attacher.
Ah.
Le maîtriser.
Et pendant que vous parlez, vous voyez que il commence à mettre les deux mains dans les victuailles et commence à manger de façon plus compulsive et...
Je le pousse.
Et...
Je me retourne et je le pousse. Dès que je le vois mettre deux mains dedans, je le pousse. Mm.
Et quand tu le pousses, il se rejette sur la nourriture et s'empiffre.
Faut un effort pour l'attacher.
Il faut le choper tout de suite.
On s'avance tous ensemble et on se jette sur
lui. Maîtrise.
Vu que je suis devant, j'essaie de le plaquer au sol. Mais je suis petit.
C'est vrai qu'il y a force.
Mais est-ce qu'on réveillerait pas Krogar? Enfin, moi, je crie pour réveiller Krogar.
Je suis loin, non?
Bah, il y a trois carrioles, je vais te dire, le convoi il fait pas 50
façon,
mètres.
Non, mais de toute façon, le Oya l'a déjà chopé, donc le temps que tu me réveilles et que j'arrive.
Oui, mais du coup, de toute façon, te réveiller, c'est au pire si on doit se battre.
Par contre, essaye de choper Cloane.
Cloane!
Tu lui sautes dessus et vous appelez
Cloane. Je pousse à terre, genre vraiment, c'est comme si je prenais mon bâton et que je me tombais sur lui, quoi. Genre, il n'y a que le bâton entre nous, quoi.
Fais-moi un jet de rapidité.
Ok. Oui, 12.
Moi aussi. Oh. 2 x 12, je suis désolé.
Oh,
putain. C'est un enfer les jets de...
Et un 1.
C'est
un enfer. 24,
25, 4,
12 en tout, moi 27. C'est pas un 12 naturel.
Tu peux pas dépenser un point là pour...
Baf.
Non mais ça change rien, elle a fait 2 12.
27.
Ah oui, donc ouais, c'est imbattable.
Je peux me préparer au combat moi derrière?
Oui. Ce qui se passe... Oya, tu t'apprêtes à lui sauter dessus et d'une rapidité complètement invraisemblable, il se fait un pas de côté et il te crache dessus.
Hey.
Et tu vois une bouche suintante de sang noirâtre. Shimaz arrive. Et tu le vois courir, monter sur le monticule de nourriture, et il sort une sorte de poignard, et il s'égorge. Et les bras en croix laissent son sang se répandre sur la nourriture.
Je cours sur la nourriture, j'essaie de sauver ce qui peut être sauvé.
Et tu vois, au moment où tu essayes de sauver ce qui est sauvé, tout
tout fume, tout se flétrit, tout noircit, et tu vois le corps d'un carquin qui sourit et donne son dernier rire dans cette gorge sanglante.
Je lui crie bon appétit.
Verbe ou.
Et tu reconnais le corps mort d'un carquin étalé sur cette nourriture qui se flétrit, qui pourrit au contact du sang.
Je m'écarte du coup un peu maintenant. Super.
Donc là, on
autour de toi, il y a le convoi s'arrête et Cloan arrive. Qui a-t-il ? Qu'est-ce qui ? Maudit.
Très très détaché. Un carquin. Un petit carquin.
Maudit carquin. Et il regarde, il prend un bout de nourriture qu'il effrite entre ses mains et il lèche un léger bout et il recrache.
Maudit. Nourriture putride, immangeable, souillée par le sang des carquins. Nous sommes perdus.
Il nous reste un convoi. Enfin,
il est presque vide, regarde.
J'évalue combien de jours on tiendrait avec ce qui reste.
Là, tu sais que ça va durer peut-être un dernier repas et ensuite il faudra jeûner jusqu'à la fin.
Ok.
Il aurait dû lui trancher la gorge.
Ça se mange une pie.
Elle est partie.
Cloan sort le visage de ses grosses mains.
Ne nous détournons pas de notre objectif, avançons. Nous sommes à quelques... peut-être une heure de marche de la marmite des âmes. Nous devons y aller.
Bon, faut qu'on se débarrasse de l'autre carriole, là. Ça sert plus à rien, la bouffe, on n'a plus besoin.
Est-ce qu'on...
Non, on la laisse.
Est-ce qu'on... Ouais, on garde pas juste le...
La carriole.
Ouais, okay. Pour mettre des gens dessus.
Tu vois, même le bois est...
Oui, bah faut qu'on
est recouvert d'un sang contaminé, dégoûtant.
Donc surtout pas toucher.
Okay. Vous abandonnez la carriole et vous continuez votre progression.
J'étais donc dans l'autre. Carriole.
T'étais pas dans celle-ci. Une carriole de nourriture, t'étais dans une carriole qui transporte les malades de Placide.
Ok, oui, d'accord.
Il reste deux carrioles, oui, une de malades et une de nourriture.
Je pensais qu'il y avait que la nourriture. Pardon.
Vous arrivez aux bordures du toit et le convoi s'arrête à nouveau et Cloan vous dit :
nous y sommes. Je déteste cet endroit, la marmite des âmes, mais c'est le seul moyen de passer de l'autre côté.
À quoi doit-on s'attendre ?
C'est un moyen de transport. Nous ne l'utilisons presque plus. Mais c'est notre seul moyen.
Vous voyez effectivement en contrebas une marmite qui a l'air d'être un peu en fonte et qui est finement ouvragée. D'oiseaux gravés sur son pourtour et vous estimez que cette marmite peut contenir à peu près l'ensemble du petit peuple et peut-être une carriole, pas plus. Elle est accrochée à une sorte de filin de chaîne, à une sorte de chaîne coulissante et il y a une sorte de mécanisme qui effectivement passe d'un bâtiment à l'autre, au-dessus des drumes. Et... Et à son contact, vous sentez la pression palpable autour de vous. Vous entendez des chuchotements. Oh, j'avais oublié, je ne pensais pas qu'on passerait par là. Nous ne pouvons pas descendre. Mais non, tu te rends pas compte, c'est impossible. Ça parle de cette fameuse marmite des âmes.
Et le convoi est plus ou moins arrêté du coup.
Le convoi est stoppé.
Ok, donc moi ça me réveille du coup, ça me berce plus. Du coup je me réveille bien tant que mal.
J'ai rêvé, j'ai fait des cauchemars particuliers ou...
Non.
Ok, bon. J'ai pu reprendre le minimum de force.
Tout à fait.
Bah, je vais retrouver mes compagnons. Ok, donc voilà ce que je propose. On n'a plus, de toute façon, plus beaucoup de nourriture. Je propose qu'on distribue à chacun sa nourriture personnelle et qu'on dise à tout le monde de se rationner personnellement.
Je pense qu'il faut même manger maintenant. Cloane t'interrompt.
Ben, est-ce que vous voulez pas qu'on se rationne plutôt ? Comme ça, la nourriture dure plus longtemps ?
Vous pouvez essayer. Moi, je sais que je suis à bout de force.
Eh ben, je vous conseille de pas tout manger d'un coup. Parce qu'après, avec la digestion, ça va vous prendre beaucoup de force et vous avez pu... Bref, je pense que c'est mieux de se rationner.
Très bien.
Bon, on organise la distribution, ouais, si tout le monde est d'accord.
Je t'aide.
Ok, c'est bien. Bon, on explique. Personne ne prend la nourriture d'autrui. On distribue une quantité fixe à chacun, tout le monde la même chose.
Mais ceux qui veulent manger, ils peuvent.
Oui, chacun gère sa quantité, sa portion, comme il l'entend.
Pendant que vous faites cette distribution, force est de constater que Pomelo manque à l'appel. Et il vous faut pas longtemps pour remarquer qu'il se trouve devant l'entrée, en contrebas, devant l'entrée de la marmite des âmes. Debout, sans bouger, les yeux fermés, et qui regarde l'intérieur de la marmite.
Je vais le voir.
Je le suis.
En arrivant à côté de lui, vous pouvez entrevoir l'intérieur de cet espace qui est absolument somptueux. Il y a des draperies, il y a des banquettes tout le long, tout le pourtour. Il y a des fenêtres des ouvertures finement taillées et une poussière que vous voyez un peu en stase se déplacer très lentement en suspension dans les rayons de lumière qui passent par ces ouvertures. Et Pomelo, les yeux fermés, qui est face à cette entrée.
C'est beau, n'est-ce pas ?
C'est terrifiant.
Qu'est-ce qui t'y répond ?
Cet endroit, tu ne sens pas ? Ils sont morts. Ils sont morts ici. N'entends-tu pas le cri de toutes ces âmes ?
Non.
Non plus.
Eh bien moi, oui. C'est mon fardeau.
J'en suis navré, mais je suis incapable de ressentir ni d'entendre quoi que ce soit.
J'arrive et j'ai entendu ce qu'il a dit et je lui demande de qui il parle.
La marmite des âmes. Je l'ai empruntée jadis avec Feu, ma compagnie. Beaucoup de gens sont morts ici. Et leurs esprits hantent ce lieu. Ils ne peuvent pas s'échapper. Je ne sais pas, une malédiction, l'ouvrage, la matière, je ne sais pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi ils sont morts.
Nul ne le sait.
Est-ce que ce serait pas Shim'az ?
Je ne pense pas.
Donc là, nous...
Cet endroit est connu, ce mécanisme est là depuis aussi loin que je puisse me souvenir.
Donc là, on risque de la vie de tout le monde en prenant.
Il nous faudra juste essayer d'être humble face aux âmes des morts.
Mais est-ce qu'à ton avis, on risque quelque chose si on reste ?
Nous risquons nos vies à chaque seconde, et peut-être encore plus si nous n'y allons pas.
Oui, il faut qu'on passe, dans tous les cas.
Une fois que vous avez fait cette distribution, vous commencez à installer les gens et effectivement, vous ne sentez rien de particulier, mais il y a une tension palpable. Et vous arrivez à faire rentrer la carriole de malade et tout le monde s'installe. Dans le pourtour, vous voyez que toute une banquette est réquisitionnée par Porirat, qui est complètement mutique depuis plusieurs jours, entouré de ces revanchards qui portent tous d'énormes sacs et qui ont laissé leur part de nourriture à d'autres. Et ils font bloc, ils ont le teint pâle et livide, et ils monopolisent un espace que nul autre ne peut approcher. Il y a au centre une sorte de mécanisme à double manette qu'il faut tourner et il faut se relayer pour actionner ce système de poulie qui va faire se déplacer cette marmite d'un bout à l'autre.
Et ben on va être bien là-dedans. J'ai lu dans un dictionnaire des géants là, on appelle ça c'est très feng shui.
Hein? Ah oui.
Oui, j'en ai déjà entendu parler, oui.
Et tu sens que vraiment autour de toi, personne ne lève un regard, personne ne rigole, rien.
Toujours aucune trace d'Eliphis, hein. Ils sont pas...
Pas d'Eliphis.
Bon. Est-ce que c'est possible de monter la garde en haut de la marmite ?
Non, elle est condamnée, elle est fermée. Ou alors si, il faudrait grimper et il neige et ce couvercle est givré et ça pourrait être extrêmement dangereux.
Bah on peut... Ah. Oya, si tu montais en haut et qu'on t'accrochait avec une corde et que si tu vois quelque chose, tu fais de la musique.
Bah c'est une marmite, sinon je tape sur la marmite avec un truc...
Ça servirait à quoi? Elle est fermée, de toute façon, on risque rien dedans.
Ben, tu sens pas la tension palpable
là.
Oui,
si jamais mais est-ce que ça vient de l'extérieur?
Si on se fait attaquer par quelque chose de l'extérieur, on serait bien de savoir c'est quoi.
Si ça vient peur de quelque chose qui vient de l'intérieur et du coup qu'on soit enfermé dedans.
Ok.
Bon.
Bon, dans tous les cas, il faut traverser, il faut y aller.
Moi, je pense que je vais tourner la manivelle.
Allez.
On va essayer de traverser au plus vite possible et puis surveiller ce qui se passe.
Je commence à tourner la manivelle aussi avec Roger.
Allez, à la une, à la deux, à la trois.
Je me mets une feuille.
C'est vraiment très physique de tourner ce mécanisme. Ça vous demande de vous relayer, ça vous demande de demander de l'aide, c'est extrêmement physique. Et il y a un bruit terrible de chaînes, de maillons de chaînes qui passent. Et qui est un peu hypnotisant et qui résonne dans ce lieu étrange. Et le trajet dure une bonne heure. C'est extrêmement laborieux d'avancer, extrêmement long. Et une deuxième heure passe. Et si vous ne faites rien...
Je regarde à l'extérieur parce qu'il y a des petites fenêtres.
Oui, et tu vois que vous êtes ce qui t'apparaît être mi-parcours.
On a mis chemin, les gars.
Chose qui te semble étrange. Allez. Chose qui te semble un peu étrange parce que ça te semblait pas si loin que ça entre les deux bâtiments.
Bah, je préviens mes camarades, je leur fais, mais j'ai l'impression qu'on n'avance plus.
Il y a un problème de temps.
Bah, c'est ce que je dis, il faudrait sortir en haut pour regarder si tout est ok.
Après, ça fait un moment qu'on tourne, qu'on perd des forces.
Oui, mais
effectivement, il faudrait peut-être monter et voir ce qui se passe.
Comme ça, nous, on peut récupérer des forces.
Je crois que
vous entendant parler, vous entendez aussi autour de vous que ça s'agite, c'est que ça commence à regarder par les fenêtres. Quoi ? On n'avance pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Calmez-vous.
Je fais un peu de musique pour apaiser les cœurs.
Bon, est-ce qu'on envoie quelqu'un regarder la musique en haut que tu joues,
je vais aller.
La musique que tu joues, c'est comme si, quand tu la jouais, elle devrait résonner. Et c'est comme si elle était absorbée par les parois. Et ça sonne bizarre à tes oreilles ici. C'est comme si vraiment le son venait comme si on jouait de très loin. C'est très étonnant.
On a moyen d'enlever le couvercle ?
Non, il est comme soudé.
Ah, on peut même pas monter en haut et regarder juste en...
Seule accès, c'est cette porte qui est de chaque côté de la... Qui est de chaque côté de la marmite.
Marmite. Et si on ouvre la porte, on pourrait regarder ?
Pourriez.
Qui regarde par la porte ?
Bah, on va essayer de défoncer la porte. Hein.
Peut-être pas la défoncer, parce que sinon la neige rentre et puis...
Bon, on va ouvrir la porte.
Et la porte ne s'ouvre pas.
Ok. Il y a aucun moyen, à part les fenêtres, on peut pas essayer d'avoir une vision sur qu'est-ce qu'il fait.
Et quand tu dis ça, et que tu regardes autour de toi, il n'y a plus de fenêtre.
Bon allez, la manivelle.
Oui. Bon, allez, on va mouliner vite.
Allez, à la une, à la deux, à la trois.
J'essaye de raconter une histoire pour apaiser.
Et tu sens que les gens n'ont pas pris conscience qu'il n'y avait plus de fenêtre, mais commencent à s'interroger de c'est long. Quand est-ce qu'on arrive ? Et ont du mal à se concentrer sur tes histoires. Et
est-ce que je peux faire un jet de sens pour essayer de savoir si j'ai déjà vécu ce genre de truc ou
Tu peux me faire un jet d'histoire.
Waouh. Est-ce que j'ai ça,
moi ? Moi j'ai histoire.
Moi j'ai pas.
Alors
moi,
fais-moi un jet de sens.
Attends, je regarde si j'ai pas.
Moi j'ai mythe et légende.
Tu vas te tromper de sens.
Ah,
tu vas
oui,
tourner
mythe
la manivelle,
c'est bien.
Hein.
Non ?
J'ai pas mythe et légende.
Moi je l'ai.
Ah mais du coup
tu peux me faire Nini un vas-y fais-moi un jet de conte et légende.
Plus 17.
Ok.
Splendide.
Tu compulses ta mémoire comme si tu tournais les pages de ta vie, de ta mémoire, et tu arrives au prix d'un grand effort à remettre les éléments de ce qui se passe en lien avec quelque chose qu'on t'a raconté. Tu te rappelles l'histoire d'un lieu où les esprits d'anciens et voyageurs hantaient pour l'éternité les vivants. Jaloux de leur état de vie, ils les gardaient avec eux jusqu'à ce qu'ils rejoignent dans la mort. Et que le seul moyen de conjurer et de satisfaire les esprits, c'était le sang et le sacrifice d'une âme.
Okay.
Et au moment où tu penses ça dans ta tête, sans le dire à personne, quand tu rouvres les yeux, tu vois Pemolo en face de toi, qui a les yeux grands ouverts, et les yeux remplis de larmes, qui te regarde et te fait un oui de la tête.
Il a compris.
Il le savait.
Bon.
Ouais, et les gens s'agitent. Et tu tournes, et cette manivelle est de plus en plus dure. Et à un moment, tu dois demander de l'aide.
Quelqu'un veut pas m'aider là ? C'est lourd.
Et très content qu'il se passe quelque chose à faire, Yaovan, Cloan, d'autres kobolds, d'autres gnomes arrivent et vous imitez à plusieurs et ça redémarre et c'est de plus en plus pesant jusqu'à ce que vous ne puissiez plus du tout bouger ce mécanisme.
Bah moi du coup je vois Nini un peu au loin qui reste probablement sidérée de ce qu'elle vient de voir et la réaction de Pemolo. Et du coup je comprends qu'il se passe quelque chose.
Vous entendez soudain un cri qui résonne dans toute la marmite et vous entendez vraiment ce cri faire
où est Pemolo?
Pemolo est avec vous.
On okay. entend seulement le cri.
Vous voyez autour de vous effectivement qui tout le monde cherche d'où provient le cri.
C'est un cri qui vient de partout, quoi.
Et qui vient de partout, ouais.
Bon, il y a visiblement un problème technique avec la manivelle.
Et au moment où tu dis ça et que tu t'avances, tu entends un craquement sous tes pieds.
Je regarde sous mes pieds.
Et tu marches tout à fait sur des ossements. Des ossements de plusieurs races, du petit peuple, plusieurs espèces.
J'essaye toujours de.
Je pense que je n'ai pas très bien dormi.
J'essaie toujours de raconter mon histoire, mais de manière un peu plus paniquée en regardant mes compagnons de loin.
Et tu te rends bien compte que personne n'écoute. Que tout le monde commence à rentrer dans une sorte de frénésie, de panique, que le brouhaha de... Et certains commencent à se lever et se rendent compte qu'il n'y a plus d'ouverture et les cris commencent à s'amplifier.
Je tombe.
Je vais tout de suite... Je vais la rejoindre pour l'aider à se relever.
Je te regarde.
Moi, j'essaye de... Je quitte pas Pemolo du regard.
Pemolo regarde Nini.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé?
Les yeux qui se remplissent de larmes et sans bouger.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu?
Je te souris et te tends la main et te montre le poignard que j'ai dans la main, rempli de sang. Et j'ai agrandi la blessure que j'avais dans la jambe et qui était déjà très très grande et qui se nécrosait. Et je te dis, tout ira bien maintenant. Et je ferme les yeux.
Non. Nini. Non, non, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu?
Et tu sens une main se poser sur toi, Nirim. La main de Pemolo. Tu entends juste sa voix qui te dit... C'est fini.
Quoi?
Elle est partie.
Mais non, mais elle vient de revenir. Elle était là. Elle était avec nous. Elle était revenue.
Et Pemolo s'écarte de toi. Et te regarde, Krogar. Et te montre la poignée en te demandant de l'aide pour actionner de nouveau cette manivelle.
Bah du coup, complètement sidéré, en état de choc, mécaniquement, j'actionne la poignée.
Et la poignée s'enclenche. Et tu constates que tes pieds sont posés sur le sol. Et toi, Vorgen, si tu arrives à détourner ton regard de Nicodemia, tu peux voir le bord de la maison se rapprocher par cette petite ouverture, cette petite fenêtre.
Ça a marché, on approche.
Et moi, je n'ai pas du tout capté. Du coup, je continue mon histoire. Ah mais vous voyez, on est presque arrivé.
Et effectivement, autour de toi, les sourires, et très peu de gens ont capté,
moi, j'ai
comme
pas
tu
trop
dis, et des sourires de « Ah, oh, super, oh, on arrive bientôt, vous voyez les enfants ?» Et tout le monde commence à se réjouir, et presque des rires commencent à résonner dans la marmite.
Et là, je vois mes camarades, je fais « C'était difficile. »
J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. À un moment, j'ai cru. Et là, du coup, je me retourne vers le reste du groupe. Mentalement, je fais OK. Nirim, Vorgen, Oya. Elle est où, Nicodemia?
Elle est plus là.
Bah, si, elle est où?
Elle est morte. Et elle vient de se sacrifier pour nous, pour...
Non, mais elle est revenue avec la pille, hein. Tu dois délirer encore un petit peu.
Comment ça y est? Mais quoi, de sacrifier une maïsique?
Je sais ce que j'ai vu, je sais. Elle vient là, à l'instant, de se sacrifier pour nous faire passer. Elle était au courant, Pemolo aussi.
Pemolo?
Quoi?
Qu'est-ce qu'il
a fait, Pemolo?
Rien du tout. Il était au courant, il l'avait vu.
Et vu quoi?
Nicodemia le savait, elle était au courant aussi.
Mais au courant de quoi?
Rien de ce que vous racontez.
Ça devait se passer comme ça, il faut qu'on continue.
Mais quoi? Mais elle est où? Mais elle est où?
Elle est où?
Elle est gisante sur le sol.
Et là je la vois. Et je me précipite vers elle.
Mais qu'est-ce qui... Mais t'as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Nirim?
Elle a rouvert une de ses plaies qui était en train de nécroser. Elle savait que dans tous les cas elle était condamnée. Il y avait rien à faire.
Mais comment ça? Mais de quoi elle était condamnée? C'est juste que la manivelle elle était bloquée. Il y avait pas de situation de.
C'est pas mécanique.
Et à ce moment-là, la marmite s'arrête et les portes s'ouvrent et dans ses rires, ses soulagements, vous voyez tout le monde peu à peu sortir, vous laissant au bout d'un moment seul. Et les derniers à sortir sont Porirat et sa garde personnelle, et ils se lèvent et ils posent tous et toutes quasiment le regard sur vous. Porirat regarde Nicodemia sans expression et sort. Et ils sortent tous, vous laissant seul avec le corps de Nicodemia.
Je vais vers elle, je récupère le couteau et j'essuie le sang qu'il y a dessus pour le conserver avec moi. Je prends Nicodemia avec moi.
Alors,
dans mes bras.
Tu ne peux pas la prendre parce que je suis accroché à elle, tel un chimpanzé en pleurs.
Et je ne la lâche pas. Tous les deux.
Non, mais moi je la lâche pas. C'est juste, je te pose de la main.
Mais non, mais il doit bien y avoir un moyen de la soigner. J'en sais rien, moi. Yoya, tu sais faire de la magie là. Tu peux faire les trucs, non?
Et dors juste et va se réveiller, vous inquiétez pas. Et faisait déjà des grandes siestes avant. Puis elle faisait souvent quand j'avais fait des bêtises.
Oya.
Mais là, j'ai pas fait de bêtises. Du coup, ça devrait aller. Non, mais elle va se réveiller. Vous inquiétez
pas. Je pose ma main sur l'épaule de.
Il faut qu'on l'emmène avec nous.
Doya. Et j'essaye de. Je pose la main sur son épaule de manière réconfortante. Et j'allume ma lampe à fée des nuits. Et je m'assois à côté de Oya un petit peu. Et je regarde Nicodemia.
Je continue à parler. Non, mais ça fait bien la magie. Du coup, peut-être que si je réfléchis bien avec de la magie, je peux la faire revenir. Et puis peut-être qu'avec un peu de flûte ou un dessin, elle aimait bien les dessins. Je commence à dessiner Nicodemia en boucle sur des feuilles.
On peut pas la laisser là, il faut qu'on l'emmène avec nous. On peut pas.
On
verra après s'il y a un moyen, mais il faut pas qu'on la laisse là.
Et Pemolo se trouve être dans l'encadrement de la porte, nous dit: nous ne pouvons pas l'emmener. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné son âme aux morts. Elle va demeurer ici, avec eux. Il faut y aller.
Mais on peut prendre son corps, peut-être. Pas Krogar. Son âme, mais son corps.
Krogar, je suis plus important. Et il
ouais,
se...
moi je pense que exactement, je pense que je me lève et je mets une tarte.
Je lui fous une tarte. Et tu vois qu'il se prend une tarte. Oh là là. Et il prend le temps de se regarder. Je suis désolé. Je suis toujours plus important. Rien d'autre ne compte. Il faut y aller. Et les yeux remplis de larmes, il se retourne et sort.
Et je le suis.
Moi, j'ai envie d'embarquer le corps de Nicodemia. J'ai pas. Je l'embarque. Viens, Oya, viens, on va la. Viens. Aide-moi, on va pas la laisser là.
Et au moment où tu la transportes, viens Oya, on va pas la laisser là. Tu portes Nini comme ça et quand tu te retournes pour sortir, il n'y a pas de porte.
Bon, c'est certainement un problème technique. On va.
Non mais
j'essaye. Je cherche dans tous les sens vraiment s'il n'y a pas une porte. Je frappe.
On est sorti nous.
Plus de porte. Je ne sais pas.
Moi je suis toujours accroupi.
Toi, tu es sorti,
en fait,
alors tu es sorti et tu vois la porte ouverte et tu vois tes compagnons qui ne bougent pas, qui sont autour de Nicodemia.
Pemolo avait raison, on est obligé de la laisser là.
Pour vous,
de l'extérieur, ça vous semble naturel. Vous voyez qu'ils vont arriver vers vous et vous les voyez se retourner et arriver en laissant le corps de Nicodemia et s'apprêter à sortir.
Bah, je m'assois tout en lui tenant la main alors que tu la portes et je fais non.
Oya, je pense qu'on peut pas sortir si on la laisse pas.
Non. Et je lâche sa main, je continue à dessiner. De Nicodemia en boucle sur mon papier.
Et vous voyez.
Oya, il faut que tu fasses une chanson.
Nirim.
Maintenant, il faut que tu fasses la dernière chanson de Nicodemia. Et après, on la laisse et après, on y va. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est terrible, mais c'est ça qu'il faut faire.
Je vais continuer à dessiner sur le feu. Et là, je te réponds plus. Je suis juste en train de dessiner.
Pendant que Oya dessine, vous voyez le mécanisme s'enclencher à l'envers qui commence à faire
maniez-vous.
Une sorte
du coup,
de marche arrière.
Je peux choper
Parce que pour nous, la porte, elle est encore ouverte.
Mais pour vous, ils sont en train de sortir. Pour vous, tout va bien. Vous, le temps se passe pas pareil. Ouais. Pour vous, ils sont en train de sortir, ils arrivent. On y va et ils sortent.
Mais eux, la porte est apparue, ils ont lâché.
Il n'y a pas de porte.
Nous, on voit pas.
Ok, j'accroche sur une corde.
Pour toi, tout va bien.
Flèche.
Non, mais pour nous,
tout va
bien.
Pour toi, ils sont en train de. Ils sortent là, ils sortent.
Bon, du coup, je m'accroupis, je me mets en face. Je me mets en face d'Oya. Tu dessines avec quoi? Enfin, c'est pas ce que je te pose comme question, mais tu dessines avec quoi?
De l'encre et...
Ok, donc je prends ta main qui dessine, j'arrête le crayon. Et du coup, je fais en sorte de capter ton regard.
Je te regarde avec des yeux tout rouges.
Oui, on peut pas rester là. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais Nicodémia, elle a fait ça pour qu'on s'en aille.
Je baisse la tête, je continue à dessiner.
Je peux pas te.
La force.
Je vais t'obliger de te traîner, te choper et te traîner vers la sortie. Je vais t'obliger. Désolé. Ça me fait très mal au cœur, mais je vais t'obliger. Je dois faire un jet ou.
Tu résistes?
Je me résiste pas, mais je me débats un peu au début. Et je continue à dessiner.
Je te laisse dessiner, mais je te porte et du coup je regarde, j'essaie de voir s'il y a une porte. Maintenant.
Quand le corps de Nicodémia reste à terre et sans contact, tu vois la porte et tu vois tes compagnons, Nirim et Vogan qui sont. Allez, on y va, allez!
On y va, on se dirige vers la porte.
Je suis genre en sac à patates et je continue à dessiner sur ton dos.
Je te laisse faire, y a pas de soucis.
Et au moment de passer la porte, si on a passé la porte, je lâche un dessin par terre. Mes dessins,
j'ai pas de mots.
Et au moment où ils passent la porte, alors qu'ils arrivaient simplement, vous voyez Krogar s'effondrer par terre avec Oya sous le bras, comme une sorte de spasme dans le temps. Et la marmite repartit. Et vous entendez au loin.
Allez, on va pas rester là. On va finir le congelé. On n'est pas fait là pour rester des bonhommes de neige. Alors avançons.
Allez, en route.
Moi, je porte Oya.
Je suis un peu amorphe sur ton dos, genre je bouge pas.
Vous avancez, le cœur gros et rejoignez peu à peu la procession. Et durant de nombreuses heures, vous êtes en retrait de cette procession. Et vous commencez à entendre des voix qui s'élèvent. Vous commencez à entendre au bout de plusieurs heures... Des cris, des fois des protestations, et vous voyez quelques habitants du petit peuple, cette procession, ralentir pour peu à peu se retrouver en retrait à votre niveau, en se tenant le bras et en se tenant l'estomac comme à bout de souffle.
Ah, ça va. Ah, il m'a fait mal. Ah, moi aussi. Ah, qu'est-ce qu'il leur a pris? Ah, je sens plus mon bras. Allez, viens, il faut qu'on avance. Vous aussi, vous devriez avancer. Ça se passe mal devant.
Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas. Les hommes de Porirat, ils agissent bizarrement. Ils nous ont violentés. Ils nous forcent à accélérer. Et j'ai simplement protesté... dit que je voulais me nourrir, voulu manger ma ration et... Ah, ils me l'ont prise. Et je crois qu'ils font ça un peu avec tout le monde. Je crois que... Ah, je sais pas. Comme s'ils devenaient fous.
On va voir.
Ouais, on va aller voir ça tout de suite. Hein.
Enfin, on va voir.
Moi, je reste avec Pomelo.
Et Pomelo... te regarde et dit « Il arrive. Il arrive.
ne l'y échapperons plus. Il se dressera sur notre chemin.
Qui ?
Shim'az. Vous avancez, et en rejoignant la procession, vous voyez que, effectivement, il y a le convoi qui s'est arrêté, il y a vraiment des rixes et des engueulades, et vous voyez tout le monde protester, dire « Non, mais rendez-les-nous ! On n'a plus que ça !» Et vous voyez Yaovan qui est un genou à terre et qui se tient le genou, et Cloan qui est devant lui et qui s'interpose face à 5 ou 6 revanchards.
Ok, on y va, on fait les grosses dents, on fait ouais, partez, on essaye de les intimider pour qu'ils partent. Enfin, moi j'essaye de le faire en tout cas.
Ouais, je suis Krogar.
Je fais les gros muscles.
Et il n'y a pas une réflexion, tu entends seulement la voix de Porirat qui vient de derrière eux. Mais partir où ? Nous sommes perdus. Et tu vois qu'elle mange un fruit. Nous sommes perdus. Restons là. Partons. Ça n'a plus d'importance.
Pourquoi vous dites ça ?
Et elle regarde dans le vide et elle mange. Et les autres habitants se tournent vers vous et vous regardent un peu le visage implorant. Ils nous ont pris notre nourriture. Regardez. Et il y a Yavan qui fait ah là 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 là. Oh, mon vieux tibia. Oh là là. Oh, je déguste. Et vous entendez Cloan qui hurle. Fait mais vous êtes devenus fous. Et vous les voyez tous là en train de faire une sorte de barrage qui protège Porirat et de manger toutes ces dernières rations. De manger de façon compulsive.
Qu'est-ce qui se passe, Yaovan, Cloan ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais nous ne savons pas ! Ils ont pris par la force toutes les provisions de chacun. Et regardez leurs têtes, regardez leurs yeux, on dirait des coquilles vides.
Je peux voir si je sens un truc similaire au gars qui a choisi la nourriture ou pas. 6 et 6, 12.
Et tu les vois effectivement qui sont en train de lécher leurs doigts et d'avoir fini de manger compulsivement toute la nourriture et qui regardent un peu dans le vide et que dès que quelqu'un s'approche, il se retourne d'un coup vers lui en le transperçant du regard, presque la main sur la garde d'une arme, et puis ils se regardent entre eux et ils se lèchent les doigts quand ils ont fini de manger. Ils se lèchent les doigts.
Ok, je balance discrètement à mes collègues derrière, du coup, que j'ai vu. Enfin, je leur dis
je pense que le cauchemar est en eux.
Ils sont combien ?
Ils sont. Neuf, 8 Belfolk, 1 gnome.
On est 4.
Et on est 4.
Je suis pas juste à côté.
Non, mais il y a Cloan et Yaovan aussi. Hein. Oui.
Et vous entendez un hurlement, vous entendez un cri de terreur. Et vous, en regardant d'où ça vient, vous voyez un jeune kobold qui a le doigt tremblant et qui montre la direction d'un des revanchards. Et quand vous regardez dans sa direction, vous voyez ce revanchard sortir de son sac un membre. Un membre de l'Iphis.
Eh oui. Allez, on les attaque. C'est parti.
C'était sûr.
Un bras légèrement congelé et givré par le froid qu'il porte à ses lèvres et qu'il commence à arracher la chair et les os. Et les autres revanchards le regardent, un regard.
Moi je l'attaque.
Vide.
Je le pouillave.
Le premier coup est gratos, non ? Pas de jet d'initiative s'il fait des. Si tout de suite il lui saute dessus là, si.
Pendant son temps, au loin, vous entendez des cris. Oya, tu entends des cris. Et. Pemolo te dit : Il est là. Il est si proche qu'il pourrait me toucher.
Et tu entends vraiment le cri, et dans ces cris, tu reconnais aussi les cris de Krogar, et qui fait...
Je le serre dans mes bras, je fais « Rejoignons nos amis !» Et je...
Et il ne bouge pas. Vas-y, cours. Ils sont en danger. Ils sont en grand danger.
Je te laisserai pas seul.
J'arrive.
Tu es le plus important.
Et tu vois qu'il a les yeux qui... les paupilles qui tremblent à une vitesse incroyable, et il a l'air de convulser, et il tombe au sol.
J'alerte n'importe qui à côté.
Je cours et je vais porter.
Vous n'entendez pas.
Nous on est dans la baston.
Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas.
J'alerte qui que ce soit.
Tu es loin. Tu es vraiment loin.
De tout le monde.
Tu peux crier, mais tu ne couvres pas les cris de toutes ces tricks.
Mais pas nous, forcément. Il alerte les gens autour de lui.
Il y a pas de gens autour de lui. Okay.
Ah.
Porte-le. Ah. Bah ouais, j'essaie de le porter jusqu'à vous. Je la grippe de la meilleure façon que je puisse.
Ok. Combat, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Vorgen?
Je sors mon hameçon. En fait, je pars devant tout le monde, du coup. Et je sors mon hameçon qui est sur moi déjà en main, parce que j'ai senti que de toute façon ça allait partir en baston. Et j'essaye de viser à la gorge le revanchard qui était en train de manger le morceau de Lyphis.
Et il n'offre aucune résistance, il est omnubilé par cette nourriture, et cet hameçon lui transperce la gorge. Et au moment où il tombe au sol, tous les autres revanchards regardent le corps de leur ami au sol, et tout doucement se redressent et te regardent et sourient de toutes leurs dents et se mettent à sortir leurs armes,
les gars,
et à foncer dans la mêlée. Nirim, que fais-tu?
Eh bien, je sors mon épée à deux mains et je me tiens prêt à couper en deux quiconque arriverait vers moi.
Il y en a un qui arrive vers toi, là.
Et bah, du coup, je dégaine, je sors donc cette épée. Je me prépare, je le vois bien arriver. Je me mets bien sur mes appuis. Je visualise bien la moitié de son corps. Et à partir du moment où il arrive à un petit mètre de moi, j'engage déjà mon mouvement pour que je puisse le découper au passage, et éventuellement un autre qui serait au passage aussi.
Et effectivement, t'en découpes un, il y en a un autre qui arrive, qui passe à ton côté, et alors qu'il passe derrière, tu retournes ton épée, tu transperces le dos. Et tout ça se passe dans les hurlements du petit peuple qui est terrorisé et qui hurle. Regarde.
Moi j'en chope un et je le jette sur un autre.
Et il s'étale, laissant une grande traînée dans la neige, et commence tout doucement à essayer de se relever, non pas pour aller vers toi, mais pour aller sécuriser son sac. Tu entends pendant ce temps, Oya, des cris de lutte, et tu entends vraiment des hurlements d'agonie.
Cela me... Comment dire ? Je repense tout de suite à Nini qui... est morte il y a peu, et ça me donne une sorte d'énergie qui fait que je le tire avec plus de force
et
encore
tu
que
sens
par
qu'il a l'air d'offrir une résistance, et quand tu jettes un regard sur lui, il fait « Je sais à ce que tu penses, et je sais que tu m'en veux, Oya, mais c'est la réalité. Je suis plus importante que Nini, plus importante que tout. » Et il se met à presque rire en pleurant « Plus important. » Je suis la seule chose qui compte. C'est mon fardeau plus important. Ne m'emmène pas là-bas. Face à lui, ne me livre pas. Je suis plus important. Fuyons. Fuis avec moi. Ne me laisse pas. Ne m'emmène pas là-bas.
Seul, je ne peux rien, Pomelo.
Laissons-les.
Je n'ai pas réussi
à
sauver Nini. Comment pourrais-je te sauver?
Emmène-moi, Poutrine. Fuyons les combats. Laissons-les mourir. Je suis plus important. Plus important.
Je le regarde, je fais « Oui, c'est pour ça qu'on arrivera ensemble. »
Et vraiment,
il
essaye de te repousser, il fait « Mais tu comprends pas !»
Et là, j'essaie de lui foutre un coup pour l'assommer.
Corps à corps.
Ah, corps à corps. Ok.
La bagarre.
Oh, mais j'ai un.
La bagarre des bardes.
Ah bah 11, mais...
Ok. 11. Tu lui mets un coup, mais il esquive et il te repousse. Ne m'oblige pas à me battre contre toi, Aria. Parce que si je dois le faire, je suis plus important. Tu ne peux pas comprendre ça. Plus important.
Tu peux passer à leur combat, j'ai besoin de réfléchir.
Tu te fais attaquer Vorgen. T'en as un qui te saute dessus et qui est prêt à vraiment te bouffer la carotide.
Je fais un petit pas de côté et en fait mon hameçon est resté dans la gorge du gars, j'ai pas réussi à l'enlever, donc je sors mon couteau et mon sabre sixte et du coup je lasse le dessous de la gorge.
Et tu l'égorges et il tombe à tes pieds. Nirim, pareil, il y en a un qui te saute dessus pour porter une attaque. Il y en a deux qui te sautent dessus pour porter chacun une attaque. Pareil pour essayer de te bouffer.
Bah j'esquive premièrement. 9 et 1, 10.
Ok, les deux te sautent dessus et commencent à te bouffer. Et tu te fais mordre le bras et tu te fais mordre l'épaule.
Ah,
et tu
amulette.
Perds 5 points de vie.
J'ai mon amulette.
Tu perds 5 points de vie et tu hurles.
J'enlève
et
mon armure.
Tu sens vraiment leurs griffes et leurs... oui, tu peux. Tu sens vraiment leurs griffes et leurs dents et leurs crocs rentrer dans ta chair. Et vous voyez qu'ils se relèvent tous, font tous un pas de recul et vous regardent tous avec la tête sur le côté et une espèce de sourire dégueulasse sur le visage et parlent tous d'une seule et même voix. Vous arrivez trop tard. Vous allez tous laisser votre sang sur cette neige immaculée. Et Shim'az prendra bien soin d'emmener vos âmes dans les tréfonds du cauchemar. Et tu les vois se disloquer et se bouffer les membres. Et les uns et les autres se rapprocher et se bouffer tous entre eux jusqu'à s'empiler les uns sur les autres dans une masse informe, terrorisante. Et ils ont l'air de se fusionner. Les bras se couvrent de bubons. Les yeux du visage se retrouvent dans le flanc d'un autre. Une espèce de masse informe prend forme. Une masse de plusieurs centimètres, ce qui est immense. Une masse avec trois bras, une aberration démentielle, avec des griffes gigantesques, et vous voyez apparaître Shim'az devant vous.
Vous n'êtes rien, et ne le serez jamais.
Pendant ce temps, Oya, que fais-tu ?
Je l'attrape par la main, je fais. Il nous reste combien de temps jusqu'à Putrine ?
Et il te regarde toujours en pleurant. Une journée, deux tout au plus.
Je prends un papier, j'écris un mot et je fais allons-y. Je laisse une lettre disant on va à Putrine, signé Oya. Et je me précipite dans la bonne direction avec lui, en lui attrapant la main.
Et il t'arrête une seconde et te regarde dans les yeux, t'enlace pendant quelques secondes et en se détachant te dit « Je suis désolé. » Vorgen, c'est à toi. Tu as cette espèce d'aberration.
Ça
ressemble à ça.
C'est de tout le
monde.
T'as eu cette espèce d'aberration qui est sur toi. Tu veux essayer, petit.
J'ai un moment de flottement. Je veux pas. Du coup, je ne veux pas m'approcher de lui. Donc, je dégaine mon arc et j'encoche une flèche en direction de ce que j'estime être son visage.
Vas-y, fais ton jet.
Mais on n'a pas fait d'initiative combat.
C'est les mêmes initiatives.
Mais j'ai pas de gère.
Ah si, c'est un jet de tir du coup.
Oui. Okay.
Et c'est réussi.
Et elle se prend la flèche. Elle met sa main devant. Et la flèche, le carreau de la flèche transperce la main. Faites des dégâts.
Donc 2.
Et le Shim'az met sa main pour intercepter la flèche et le carreau, le carreau transperce sa main et il l'arrache.
C'est tout ce que tu peux faire.
C'est à toi, Nirim.
Moi, j'essaye de, je cours vers elle et j'essaye de faire une glissade au dernier moment pour passer entre ses jambes et pour remonter mon épée à deux mains dans son dos, mais à travers tout son dos. Bien nul, je fais 1 et 2. Attends, okay. Je prends mon amulette du destin. Tant si mêlée. 9 et 9, 18. C'est bon. Ici, c'est bon.
Ouah, t'as 9 en mêlée ?
Oui.
Ok, tu peux décrire ton action.
Eh bien, du coup, je me précipite vers Shim'az. Et je cours. Et au dernier moment, je fais une grande glissade. Je passe entre ses jambes. Et au moment de me relever. Avec tout ce nuage de poussière et de neige qui m'entoure, je remonte mon épée tout le long de son dos, qui va de sa raie jusqu'en haut de sa tête, dans l'espoir de le couper, ou en tout cas de le blesser très fortement.
Et tu sens ce coup fatal qui le détruit, et au moment où tu te retournes, tu ne vois plus Shim'az, alors que vous autres, vous voyez Shim'az qui n'a absolument pas bougé, et Nirim qui a porté un coup complètement à côté et qui a l'air de regarder en face d'une créature qui n'est pas là. Et Shim'az te regarde, Krogar. Shim'az te regarde, Krogar.
On dirait que ton ami a quelques problèmes d'orientation. À toi.
Bah, moi je charge tête baissée en essayant de le taper le plus fort possible avec ma dent de géant. C'est 23 plus 5, 28. Du coup, je fonce vraiment, je cours de toutes mes forces avec ma dent de géant en avant et je la propulse de toutes mes forces. Et je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais vraiment j'essaye de toucher vraiment. Je réfléchis même pas à la zone que je touche, je fais vraiment juste le truc le plus près de moi qu'il y a devant moi, et du coup je lui fais 12 de dégâts.
12 de dégâts. Et tu vois que vraiment il prend un coup, il fait une espèce de cri terrible, absolument aberrant, une espèce de, et il recule et met un genou à terre et se relève.
À mon tour.
Et il te fonce dessus.
J'essaie de bloquer le coup avec mon tonne géant. Ah.
Et tu sens que face à ce coup, tu bloques ce coup, mais la puissance de ce coup te revient en pleine poire. Et tu prends 13 points de dégâts.
Waouh! 2, ça fait que je prends 11. Tac.
Et il t'assène un coup énorme et tu recules de plusieurs pas et ensuite il se recule d'un pas, sourit et vous regarde tous.
Vous n'êtes que des insectes.
Et il frappe du pied et vous voyez de lui se propager une ombre qui se propage sur la neige et qui obscurcit absolument tout jusqu'à vous englober dans une sorte de bulle d'ombre terrible. Et chacun de vous semble être face à Shim'az seul.
Jette un regard à droite, à gauche, je vois plus mes compères. Je prends mon sabre six et mon poignard et je cours en sa direction. Je fais un saut, je m'appuie sur sa jambe et j'essaye de lui planter de lui asséner deux coups en fait dans la tête.
Et à ce moment-là, tu vois qu'il disparaît et qu'il apparaît juste derrière toi.
talent.
À toi, Nirim.
C'était rapide pour toi.
Il est extrêmement rapide aussi.
Eh bien, moi je suis toujours avec mon Nîmes à la mort, ma fameuse épée à deux mains. Et je même si je suis pas forcément très élevé avec tout ça, je sors un. Je pense à Nini et je sors un fil de songe. Puisque du coup je suis dans le sombre, dans le noir. Je me dis j'ai besoin de lumière. Donc je ferme les yeux, j'essaie juste de me concentrer sur
Et à ce moment-là, Shim-Az ouvre la gueule. Et vraiment, ce fil de songe vient vers lui et il l'absorbe.
Dommage.
À toi, Kroga.
J'ai réfléchi à quelle pénalité j'allais prendre. Je pense que je vais encore faire blessure grave pour augmenter les dégâts.
Let's go.
Et en pénalité, je vais encore prendre risque parce que c'est cool, risque, et ça te laisse choisir. Donc du coup, ouais, moi aussi j'ai l'impression d'être seul, vraiment, je calcule pas les autres, c'est pas très important, c'est plus très très important ce qui reste. De toute façon, on va mourir, c'est pas grave parce que c'est notre devoir finalement. Et du coup, je sors ma dent de géant. Et j'essaye de lui couper la tête d'un coup net et précis. Même si c'est probablement impossible, j'essaie quand même de le faire. Attention, c'est parti. Ouais, j'ai 13, ça touche.
Et vraiment, tu plantes ton épée en direction de sa nuque. Et il lève ses trois bras pour faire barrière de ce coup. Et ton coup est tellement puissant que... ça lui en coupe deux et ça se plante dans la chair du troisième bras. Et vraiment tu sens qu'il ruisselle de sang noir et il est vraiment haletant. Vorgen, il t'attaque. Ça fait un échec critique.
Deux.
Bon ça va, c'est pas un.
Ok.
Non, c'est 2-1.
Ah ouais.
Ah c'est 2-1. Oh là là, la bulle.
100 lents,
t'as combien de points de vie?
J'en ai 8.
Je te décris ce qui se passe, tu vois si tu peux faire quelque chose.
Termine.
Shim-Az se dresse devant toi et il sort de... Tu vois que son bras est coupé alors que tu n'as pas agi, mais il lui manque deux bras. Et d'un de ces deux plaies sanguinolentes, il y a un os qui dépasse et il l'attrape avec un de ses autres bras et il sort de son coude un os immense en créant une lame et il vient droit sur toi. Et
au moment où il s'apprête à me masséner un coup, j'utilise mon anneau des ombres en fait. Du coup, vu que je suis complètement dans l'obscurité, je disparais.
Et tu disparais dans cette ombre. Et tu entends juste cette voix.
J'ai tout mon temps. Et je t'attendrai quand tu sortiras. En attendant, je vais m'occuper de tes amis.
Nirim, qu'est-ce que tu fais?
Bah, je peux rien faire, je vais crever.
Shim-Az est face à toi. Et il a cette épée d'os à la main. Et il s'avance à pas lents sur toi. Et à cette espèce de main qui s'approche de ton cou. Et alors que tu essayes de l'esquiver, tu fais une dérobade, tu t'esquives sur le côté et tu sens une lame d'os te transpercer, t'infligeant 16 points de dégâts.
Bah non, bah okay.
Donc Nirim, te sentant transpercé, tu tombes à genoux, l'ombre se dissipe et tu gis sur le sol agonisant. Krogar, c'est la dernière chance de ce groupe.
Il m'attaque ou...
C'est lui qui va te porter un coup. Si,
ok, vas-y. J'ai un truc à tenter en réaction, donc je te laisse.
Regarde.
Je te laisse faire ton attaque et après je te dis comment je réagis ou tu veux que je dise maintenant.
C'est quoi le plus fun? Non, je vais faire mon attaque.
Vas-y, fais ton attaque, après je vais te dire.
Il te regarde et tu vois qu'il a dans les mains une lame d'os ensanglantée. Et il te regarde et il te dit...
Tes deux amis sont tombés. Il n'y a plus que toi, entre moi et la mort de tout ton peuple.
Il t'attaque.
Est-ce qu'il me touche, du coup, avec ton jet? Donc c'est bon, donc il ne me touche pas de toute façon.
Oui.
Donc il tente de m'attaquer avec son épée sanglantée et je fais une espèce de petite feinte habile avec mon pied. Comme ça, je peux anticiper d'où va venir l'attaque et bim, je l'arrête avec ma dent de géant. Et hop, de suite, je riposte en attaquant avec ma dent de géant. Je vais prendre la prime efficacité, comme ça j'ai plus 3 à mon résultat final. Et en pénalité, bah, je vais prendre le risque, c'est encore toi qui va me dire ce qui se passe, si je me foire. Et du coup, j'essaye de viser le genou. Parce que il est juste devant moi, à mes pieds, donc je vise le premier truc. Donc j'ai plus 3 à mon résultat. Yes, 12. 12 plus 5, 17 plus 3. 20. Ah oui, j'ai fait 12 et je relance. Oh, encore 12, je relance encore ou pas?
Faites tes dégâts.
Ton attaque, bim, paf, direct, ça tape dans le genou, paf. Ça lui sectionne sa jambe d'ombre, si c'est possible. Il tombe, paf. Le genou tranché, posé à terre. Et là, je lui mets un énorme coup de boule. Paf! Comme ça. Et je mets toute ma force et je fais... Ah!
Et tu sens son crâne, le crâne de Shimaz, vraiment exploser. Et au moment où tu hurles, l'ombre se dissipe. Et le corps de Shimaz gît au sol et ce sang qui s'échappe de lui alors que l'ombre regagne son corps, son sang fait fondre la neige dans une sorte de grande fumée nauséabonde et autour de toi tu vois chaque membre du petit peuple qui a eu l'air de vivre le même combat et tu en vois des qui tombent à genoux écorchés. D'autres dont la tête roule au sol. D'autres effrayés, tétanisés, qui respirent encore et se tiennent debout en regardant autour d'eux où est passée cette créature de cauchemar. Tu vois Porirat qui gît sur le sol, éventré. Tu vois Yaovan en boule, complètement tétanisé, et devant lui, Cloan, qui fait une sorte de barrage de son corps, laissant apparaître une énorme cicatrice sur son corps, avec un sourire aux lèvres, et tu peux entendre
ah, cette fois, je serai plus là pour t'aider, mon ami. Prends soin de toi.
Et tomber à genoux dans les sanglots de Yaovan. Tu vois Saint-Placide, une épée à la main ensanglantée, haletant, qui tient toujours sur ses deux jambes et qui regarde autour de lui et qui s'élance sur toute personne ayant besoin de soins. Et la première personne sur laquelle il s'élance, c'est Nirim, qui gît au sol dans une mare de sang. Alors que tu vois partout autour de toi ces cadavres et ces quelques rescapés, tu ne vois pas Vorgen.
Je suis KO là, je suis à genoux, sidéré, je peux rien faire. Je peux rien faire. Si je peux chercher du regard mes compagnons, je peux chercher Pomolo, Oya... Du regard, je sais pas où ils sont.
Et tu te tournes et tu...
Pomolo! Oya! Oya!
et l'écho de ton cri résonne sur ce toit. Mais nul ne répond.
J'entends son cri et du coup je sors de ma cachette de l'obscurité en fait.
Et tu réapparais. Et tu réapparais à côté de Arduina qui s'étire et qui pose les yeux sur le corps d'une Nirine. Oh. Le grand Nigo, il est mort. Et il te regarde.
Je m'approche du corps de Nirim et je le secoue. Je dis Nirim, qu'est-ce qui s'est passé?
Et tu vois Saint-Placide appliquer des soins et regarder vers toi avec la mine basse. Pendant ce temps, tu as marché, toi, Oya, d'un pas soutenu avec Pemolo, en suppliant de faire des arrêts, en te retournant sans cesse et sans cesse, sans que rien ne te parvienne. Pemolo a décidé de marcher de nuit et c'est en arrivant aux portes de Poutrine que tu jettes un dernier regard derrière toi avec le vain espoir qu'un de tes amis te fera un signe de la main, mais rien. Pemolo te demande de l'accompagner et tu arrives dans une ville somptueuse. C'est une ville commerçante dans laquelle il fait chaud, bon vivre. Il y a une chaleur apaisante, de nombreuses échoppes et des fumets délicieux qui s'échappent de la cuisine des géants. Il y a une atmosphère de fête et de gaieté. Et ton visage est comme une aberration au milieu de c'est comme une tache noire au milieu de ce tableau blanc. Les gens se retournent sur ton passage et commence à naître une espèce de rumeur sur votre passage. Pemolo t'emmène dans une sorte de grand édifice, une boîte à une sorte de poudrier dans lequel que les géants utilisent pour se maquiller, une sorte de grand poudrier en argent. Et alors que tu rentres dans une salle magnifiquement décorée et ornée, tu vois un trio de pupitres derrière lesquels siègent trois kobolds, gnomes et belfolk assez âgés qui vous accueillent de façon assez cérémonieuse.
Ah, nous vous attendions. Oubliez. Enfin, nos rêverines nous ont prédit le retour du jeune Pemolo. Heureux de vous savoir en vie.
Pemolo se retourne vers toi et te dit ceci. Oya, tu as fait ton devoir. C'est le devoir des oubliés. Nous ne vivrons jamais dans la paix. Nous ne vivrons jamais dans le bonheur de ce monde. Car ce monde n'est pas le nôtre. Et il se retourne vers ce conseil. Ce monde n'est pas le nôtre et il ne l'a jamais été. Mes compagnons sont morts pour que je vive. La compagnie de la chimère m'a retrouvé. Oya, la brave, m'a emmené ici face à vous pour que je vous délivre un message qui, j'en ai honte, mais le confesse devant vous, vaut la mort de toutes les âmes que j'ai croisées. dans le confin des terres inexplorées, nous avons trouvé une porte. C'est la première que nous découvrons. Une porte ouverte et saine qui donne accès à notre monde natal. Nous rentrons chez nous. Et il se retourne vers toi, Oya, en pleurant avec ce sourire que tu n'as jamais vu sur le visage de Pemelo. Oya, la brave, nous rentrons chez nous. Quelques jours plus tard, alors que tu te retrouves seul, Oya, dans une taverne, à écouter les histoires de passage et les colporteurs pour simplement avoir la nouvelle d'un heureux retour de tes camarades, tu vois entrer un homme. Un homme avec une longue barbe. Cet homme te regarde et, comme figé, tu le laisses s'avancer vers toi et il s'assoit à ta table.
Ah. C'était un sacré voyage, petite. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'horreurs dans ma vie. Mais j'ai aussi vu des merveilles. Et quand j'étais coincé sur ce foutu pont avec mes deux petits compères, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Je me rappelle que ce fut une des plus belles choses qui m'était donné de voir. Un oublié. La légende qu'on raconte est vraie. Vous êtes des héros. Et vous allez, je le crois maintenant, sauver notre peuple. Vous allez nous ramener chez nous. J'en ai l'intime conviction. Et le jour où ça arrivera, j'espère, Oya, la brave, que je me tiendrai derrière toi pour te voir réveiller notre reine.
Il prend ta main.
Oya, je suis un vieux, je le sais. Je parle de la météo. Je n'aime pas toujours les jeunes. Mais pire que tout, le plus grand crime, c'est que j'avais cessé de rêver. Et grâce à toi et à tes amis.
Et la porte s'ouvre.
Je crois que j'y reprends goût. Je n'aurai qu'un regret.
Et tu vois Vorgen passer la porte.
C'est que j'ai peut-être été dans ma vie un peu trop timide.
Puis tu vois Krogar passer la porte.
Et si j'avais rêvé plus tôt, si j'avais rêvé avant d'avoir peur, alors j'aurais peut-être trouvé l'amour.
Et tu vois Nirim, un énorme bandage sur le flanc, passer la porte.
En tout cas, petite, je raconterai vos aventures. Et j'espère qu'on m'en comptera le dénouement. Mais pour ça, il faut attendre. Et continuer de rêver.
Et c'est ainsi que se termine la mini-campagne des oubliés. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette mini-campagne, ce magnifique projet. Merci à Geoffroy Hassoun et Samia Acidsèche. Merci aux 12 singes de nous avoir permis de vivre cette aventure. Nous ne sommes pas toujours souciés des règles. Nous ne sommes pas toujours souciés de cette magnifique œuvre qui nous était présentée. Nous l'avons seulement admirée, nous l'avons seulement absorbée et nous l'avons jouée. C'est à la portée de chacune et de chacun de rêver et de jouer à ces jeux magnifiques. Les oublier est sans conteste une œuvre formidable et nous avons beaucoup de chance d'avoir pu y jouer. Alors, pour connaître le dénouement de cette histoire, il suffit maintenant de l'inventer et d'y jouer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre aventure. N'oubliez pas, le jeu de rôle Les Oubliés est disponible sur le site de l'éditeur des 12 singes. Si vous avez encore soif d'aventure, nous vous invitons à écouter notre campagne principale, Le Cercle des Héros, disponible sur toutes les plateformes. Un immense merci à Mab Music TTRPG pour nous permettre d'utiliser librement ces compositions merveilleuses. Bisous à toutes et à tous. Longue vie au jeu de rôle et à tous les rôlistes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.